Apprendre, les apports de la psychologie sociale, les problèmes de l'école peuvent être éclairés par les recherches récentes en psychologie sociale. Voici ce que veulent montrer les auteurs de cet ouvrage, avec le souci d'ancrer leurs analyses dans la réalité du contexte de la classe. Un véritable défi. Aider les enseignants et les parents à enseigner et éduquer, à faire progresser leurs élèves ou enfants, à leur faire vivre leur scolarité positivement, avec la réussite à la clé. Lutter contre l'échec scolaire, contre la violence à l'école, contre le désintérêt des élèves, de trop nombreuses missions que chacun rêve de voir mener à bien. Rien de nouveau, pourrait-on dire. Combien de tentatives n'y a-t-il pas eu pour aider les éducateurs, de toutes sortes, dans cette difficile mission? Combien de livres n'y a-t-il pas eu pour guider instituteurs, professeurs, directeurs d'école, parents dans leur rôle? Combien de recettes n'ont pas été offertes, de solutions miracles imaginées? Combien d'entre elles ont fini leur vie dans le placard des miroirs aux alouettes? Ce livre-ci ne devrait pas subir le même sort. Car si nul ne peut dire l'impact qu'il aura sur la réussite scolaire des enfants, une chose est sûre. Il ouvre des perspectives, enjoint de poser les questions autrement, force la réflexion. Il suggère des pistes d'action, prouve que des solutions sont possibles, à condition de garder à l'esprit la nécessité de prudence et le refus de la simplification abusive des problèmes et des solutions. Pour bien comprendre la posture des directrices de l'ouvrage, Marie-Christine Totschek et Delphine Martineau, il faut partir de la discipline à laquelle elles appartiennent. Toutes deux sont maîtres de conférences en psychologie sociale. La première est au plus près des interrogations des enseignants, puisqu'elle enseigne à l'IUFM de Clermont-Ferrand. La seconde appartient au seul laboratoire de recherche en psychologie sociale affilié au CNRS. L'une comme l'autre sont donc tout à la fois chercheuses en psychologie sociale expérimentale et concernées par la question de l'école. Leur regard sur l'école, celui de la psychologie sociale, est source d'un véritable renouvellement. Bien souvent, face à l'échec scolaire, ou à la violence à l'école, les explications sont recherchées dans deux grandes directions, on s'interroge sur les caractéristiques des individus à l'origine de leurs difficultés. Troubles d'apprentissage, troubles du comportement, troubles affectifs sont invoqués. Ce qui permet parfois des prises en charge salvatrices. L'autre grand axe est celui de l'environnement social et, ou familial. Origine sociale modeste, famille décomposée ou recomposée, le contexte « extérieur » à l'école est alors examiné pour justifier les difficultés scolaires. Ce qui permet par exemple de dénoncer l'injustice sociale qui persiste dans les parcours scolaires. Mais, comme l'affirme avec force cet ouvrage, on ne peut s'arrêter là. Lorsqu'un élève réalise une tâche, il le fait dans un contexte social, celui de la classe, où des dynamiques à fort enjeu social sont à l'œuvre, rappellent les auteurs. C'est donc également le contexte précis d'apprentissage, fait de multiples interactions sociales, qu'il faut examiner. Il faut entrer dans la classe, en somme, comme d'autres sont entrés dans la boîte noire. Ce qui est loin d'être simple. D'une part parce que les enseignants craignent souvent cette intrusion dans un territoire qu'ils tentent de maîtriser de leur mieux. Mais aussi parce qu'il n'y a sans doute rien de plus difficile pour un chercheur que d'affronter la complexité des situations réelles, du terrain, des pratiques quotidiennes et de leurs innombrables et fragiles effets. Véritable défi, là aussi. Pour le relever, Monsieur C. Totschek et D. Martineau ont fait appel à la jeune génération de chercheurs en psychologie sociale et leur ont donné des consignes précises, d'une part, une exigence de validité scientifique des travaux. Tous devaient être issus d'une recherche fondamentale et, ou appliquée, soumise à l'épreuve des faits en laboratoire ou en milieu naturel, bien souvent donc à l'école. D'autre part, les auteurs devaient partir des problèmes, défis et missions de l'école et les éclairer par la recherche en psychologie sociale. La recherche au service des applications et non l'inverse. Enfin, la forme d'écriture se devait d'être claire, allégée en références théoriques spécialisées, illustrées d'exemples, afin que les premiers concernés, enseignants et parents, puissent s'emparer de son contenu. Une fois toutes ces précautions prises, et la lecture montre que ces consignes ont été suivies, il restait aux auteurs à entrer dans la classe, à décrire ce qu'ils savaient des élèves, de leurs relations entre eux, avec les enseignants, de leur conception d'eux-mêmes, de leur représentation de la réussite ou de l'échec, de leur définition de l'intelligence, etc. La plupart des chapitres de ce collectif réussissent à convaincre d'une chose à la fois simple et essentielle, maîtriser le contexte éducatif, le type de relations établies entre les élèves, les mots employés peuvent avoir de véritables effets sur les performances scolaires, sur l'acquisition des connaissances et donc sur la réussite des élèves. L'anecdote que raconte Robert Vincent Joule, avant d'exposer plus sérieusement les apports théoriques de la psychologie sociale, illustre bien les possibilités dont peuvent disposer les éducateurs. Tout enseignant sait combien il peut être difficile d'obtenir que ses élèves lisent chez eux le texte qui sera discuté la semaine suivante. À peine un quart d'entre eux suivront la consigne. Mais armé d'un petit outil de persuasion issu de la psychologie sociale, le professeur peut être beaucoup plus efficace. Si, juste avant de laisser les élèves quitter la classe, il leur lance « Ne partez pas tout de suite, j'ai besoin de savoir qui aura lu le texte la semaine prochaine. Je n'oblige personne. Levez bien la main, je voudrais compter, plus de la moitié de la classe l'aura effectivement fait. » Voici ce que les psychologues sociaux appellent la psychologie de l'engagement. Présentée seule, cette anecdote ressemblerait très facilement à un truc, trop simple, et bien lointain du contexte réel de l'enseignement. Mais entourée des nombreuses connaissances accumulées par la psychologie sociale sur la persuasion, elle peut favoriser une « pédagogie de l'engagement », qui n'est rien d'autre qu'une pédagogie de la mise en mouvement et de la responsabilisation. Une pédagogie qui considère l'apprenant comme un acteur, dont il faut éveiller la motivation, et dont il faut connaître les représentations de lui-même, des autres et de l'apprentissage, pour être efficace. L'efficacité de l'apprentissage, ou la lutte contre l'échec scolaire, est bien sûr au centre des préoccupations de plusieurs auteurs. Bien que chacun aborde la question sous un angle précis et emprunte son propre chemin, tout en arrive à une conclusion semblable, le système éducatif tel qu'il est conçu, et surtout tel qu'il est vécu, véhicule une conception de l'apprentissage qui se retourne contre elle-même. La compétition, qui peut être très forte ou plus subtilement perceptible, l'obsession du résultat obtenu et du classement explicite ou implicite des élèves, la conception de l'intelligence, considérée comme une qualité innée et immuable, sont contre-performantes. Jean-Claude Croizet et Emmanuel Neville le démontrent par de nombreuses données empiriques. Ainsi, les préjugés qu'ont les enfants sur leur propre réussite peuvent à eux seuls faire chuter leur performance. Plus encore lorsque cette image d'eux-mêmes se trouve accentuée par le contexte d'apprentissage. Ainsi en est-il du petit Arthur, faible en mathématiques. Dans la situation, très classique et courante, le premier qui a la réponse lève le doigt. Il ne peut en même temps résoudre le problème arithmétique qui lui est posé et contrôler l'image qu'il va donner de lui-même s'il est une fois encore le dernier à trouver. Tout comme l'adulte qui ne peut en même temps chercher son chemin en voiture et tenir une conversation, l'élève se trouve dans une contrainte de « double tâche », dans laquelle l'une pâtit nécessairement, ne faisant alors que renforcer le préjugé qu'il avait. De toute façon, il est trop bête. Les préjugés qu'ont les enfants sur l'intelligence, pas seulement sur la leur mais sur cette aptitude mentale en général, jouent d'ailleurs un rôle important dans leurs apprentissages et la façon dont ils s'y engagent. Les élèves qui conçoivent l'intelligence comme une capacité, que l'on a ou non, souffrent particulièrement des évaluations répétées de leur performance. Chaque note est en effet perçue comme révélatrice de son niveau d'intelligence et génère donc beaucoup d'anxiété. Et lorsqu'en plus l'élève pense que l'intelligence ne peut ni s'améliorer ni se détériorer, qu'il s'agit d'une capacité immuable, il ne voit aucune raison à persévérer dans ses apprentissages. Si, par contre, l'élève conçoit l'intelligence comme un potentiel à développer, il peut espérer que ses efforts soient récompensés. À condition, bien sûr, que les félicitations qu'il reçoit alors ciblent non pas sa valeur intrinsèque, par des « tu es un bon élève ». « Je suis fier de toi » ou « tu es vraiment bon en maths », mais souligne plutôt ses efforts et le processus par lequel il a progressé. « Bravo, tu as compris quelque chose de plus aujourd'hui. C'est bien, tu as utilisé une bonne méthode, etc. » La psychologie sociale, lorsqu'elle examine de façon millimétrique les variations d'un contexte relationnel et ses effets sur les performances scolaires, sur l'ambiance dans la classe, sur l'exercice de l'autorité ou de la discipline, sur les relations entre garçons et filles, on revient toujours au même constat, que l'on trouve en conclusion de l'ouvrage, les situations de classe peuvent donc bien être à la fois source d'influence comportementale et régulatrice des performances et des comportements sociaux des élèves. Nous pouvons les considérer à bon droit comme de véritables leviers d'action pour favoriser la réussite de tous les élèves. Faire admettre cela aux acteurs éducatifs est un défi en soi, que ce livre contribuera peut-être à relever. Trouver ensuite la manière efficace de pousser sur le levier, de modifier ces innombrables comportements éducatifs qui définissent le contexte d'apprentissage, en même temps que les conceptions, l'idéologie, qu'à l'ensemble des éducateurs sur la meilleure façon d'apprendre est à son tour un défi, mais cette fois d'une autre taille.